Bonsoir à tous. Eh bien, pour une fois, nous sommes à l'heure. Hein. D'habitude, on a quelques minutes de retard.
À l'heure.
Aujourd'hui, oh,
Toujours à l'heure.
écoute, on est toujours à l'heure. Voilà, c'est ça.
Bonsoir.
Il est 18h32. D'abord, on est très content de vous retrouver, Maxime Hector et moi-même. On avait un petit peu envie d'échanger autour de l'actualité, bien sûr, de la chaîne, des contenus, de vos attentes, de vos remarques, de vos réflexions. On a souvent l'occasion d'échanger avec vous dans les commentaires YouTube, mais je dirais que le dialogue est plus direct, plus franc lorsqu'on procède avec le chat.
Il
Donc,
paraît que tu aimes bien la foire aux questions, Serge. J'ai ouï dire.
moi j'aime beaucoup la foire aux questions parce que d'abord ça me permet de. C'est toujours le problème, hein, quand on fait une chronique, on est là, on raconte sa petite histoire, mais on n'a pas le retour. On ne sait pas tellement comment les gens réagissent, les questions qui restent en suspens, les arguments qu'ils auraient aimé qu'on approfondisse. Il y a toute une part de la réception, de la chronique qui nous échappe. Et la foire aux questions, c'est une excellente occasion justement de combler, ce déficit, d'information pour nous, parce que, finalement, vous trouvez peut-être que parfois on est trop long ou qu'on n'est pas assez explicite ou qu'on passe rapidement sur certains sujets ou qu'on a oublié de traiter certaines questions qui vous semblaient importantes. Donc c'est bien, ça permet de faire le point et de rééquilibrer un peu notre chronique.
Serge, on rappelle le format. Hein. Donc, le concept, c'est que nous sommes en direct. On va prendre un maximum de questions sur le chat. Donc, bien sûr, hein, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on va y répondre. On va alterner sur différents sujets. On va commencer, bien sûr, avec le titre hein, de cette vidéo. Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné? On va parler de CNews, du Salon de l'agriculture, du droit de grève et peut-être plein d'autres choses. Donc, on va commencer dans quelques instants. Serge, je te laisse faire ton introduction.
Alors, avant toute chose, je voudrais remercier tous ceux qui se sont inquiétés pour ma voix qui avait disparu. Alors, certains verront une vengeance. Je m'explique. Nous sommes allés avec Benjamin Danan couvrir cette assemblée de militants insoumis qui réclamaient un peu plus de démocratie dans leur organisation. Et nous sommes tous les deux rentrés, moi sérieusement enroué et un peu fatigué. Et lui, Benjamin, a passé 3 jours avec des températures défiant toute concurrence. Donc visiblement, on a ramassé à un moment donné un mauvais virus qui nous a affectés chacun de manière différente. Moi, ça a été pendant 15 jours, cette espèce de voix passée à la toile Emery. Mais maintenant, j'ai récupéré l'instrument de mon travail, enfin l'instrument privilégié de mon travail. Et comme vous êtes beaucoup à vous être préoccupé de ma voix, à m'avoir prodigué moult conseils, eh bien, je veux vous en remercier ici. Je rentre dans le vif du sujet. Ce soir, donc, on s'est posé la question avec Maxime de quel pouvait être le point de départ de notre discussion et la question de la bataille idéologique autour des thèmes imposés par le Rassemblement national nous a semblé prendre le pas sur les autres questions. C'est-à-dire que maintenant, le Rassemblement national, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire tout tourne autour de ce que va dire, ce que va faire le Rassemblement national. Encore hier soir, la présence de Marine Le Pen, pour de bonnes raisons, était questionnée. Mais c'est vrai que c'était un des éléments de la commémoration, enfin plus exactement de la cérémonie de transfert au Panthéon de la dépouille de Manouchian et de ses camarades. Donc, on voit bien qu'en ce moment, cette question du Rassemblement national alimente à la fois les postures politiques, le débat politique et les thèmes du Rassemblement national s'imposent. Hein, la suppression du droit du sol qui a été annoncée d'ailleurs d'une manière qui, moi, me laisse encore pantois, c'est-à-dire que Gérald Darmanin descend de l'avion et dit « Le président de la République m'a chargé de vous dire qu'on allait supprimer le droit du sol à Mayotte ». J'ai trouvé quand même ça assez gonflé dans l'histoire de la République, un ministre de l'Intérieur débarque comme ça et dit « Ben voilà, c'est fini, et maintenant on passe à autre chose ». Alors, on sait pour tout un tas de raisons que ce ne sera pas efficace, que ça ne fonctionnera pas, ça ne changera pas grand-chose. Depuis 2018, à Mayotte, le droit du sol avait été singulièrement comprimé. on va dire, ou en tout cas durci, et ça n'a, la situation a continué à se dégrader. C'est-à-dire que les facteurs objectifs qui ont conduit à cette situation de chaos, voire d'insurrection larvée, sont à rechercher dans d'autres choses, la situation sociale de l'île, les relations avec les Comores, etc., etc. Cette question s'est immédiatement transportée en métropole, où bien évidemment Éric Ciotti s'est précipité pour dire « bah écoutez, oui, c'est vrai, supprimons le droit du sol à Mayotte, et pourquoi pas en France ?» et le Rassemblement National de dire bah, « on l'avait toujours dit, on est heureux que pour une fois le gouvernement, enfin une nouvelle fois le gouvernement se range derrière nous ». Et depuis cette séquence un petit peu funeste a été ouverte avec le projet de loi immigration, l'alignement des Républicains sur les positions du Rassemblement National et l'alignement du bloc présidentiel sur les Républicains pour faire passer le projet de loi.
Serge, on a un petit magnéto là-dessus, d'ailleurs, en revenant sur la victoire idéologique de Marine Le Pen, comme elle l'avait annoncé.
Regardons ce magnéto de Marine Le Pen. C'était après le vote du projet de loi.
Et on prend les questions juste après.
On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement National, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations. Je ne vois pas comment demain les élus de la majorité, et le président de la République en tête, pourra venir nous reprocher de défendre la priorité nationale, puisque... eh bien, ils intègrent l'idée qu'elle peut être appliquée. Encore une fois, ils l'appliquent à minima, mais sur le principe, eh bien, ce concept est validé.
On enchaîne sur les questions,
On enchaîne sur les questions. Je t'écoute. J'envoie déjà des filets. Vas-y.
Donc, on va commencer avec le fameux arc républicain, si tu le veux bien, la définition de l'arc républicain, hein, qui est un petit peu variable ces derniers temps. Question de Laurent, est-ce que le RN fait partie de l'arc républicain, comme disent les macronistes? Quelle est ta définition pour toi?
Moi, je ne sais plus, puisqu'on a eu trois sons de cloche à quelques jours d'intervalle. On a eu d'abord Emmanuel Macron lui-même qui a dit ben, « on peut discuter ». Oui, tu l'as
dit. C'est moi, je me suis mis plein écran, je ne voulais pas. C'est
bon, ah bon.
C'est toi qui es plein écran.
Oui, alors je disais donc qu'on a d'abord eu Emmanuel Macron qui a expliqué qu'on pouvait discuter avec le Rassemblement National, qu'il était normal de discuter autour des projets de loi, que les élus devaient discuter avec le Rassemblement National. Le lendemain, Gabriel Attal a expliqué que l'arc républicain, c'était l'hémicycle. Et donc, c'était une vraie rupture par rapport à Elisabeth Borne qui avait exclu à la fois la France insoumise et le Rassemblement national de l'arc républicain. Et puis, nous avons ce retour récent d'Emmanuel Macron qui dit, à nos confrères de l'Humanité notamment, qui dit, mais pas du tout, le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain. Donc, quand même quelque chose d'assez étrange qu'entre le Premier ministre et le Président de la République, il y a une différence de fond sur qui est dans l'arc républicain ou qui ne l'est pas. Voilà. Alors, l'argument qui est donné pour savoir si le Rassemblement national est dans l'arc républicain ou ne l'est pas, c'est que, imaginons qu'un député monarchiste, et ça a existé dans l'histoire de la République, un député monarchiste soit élu sur les bancs de l'Assemblée nationale, serait-il républicain pour autant ? Ça dépend ce qu'on met sur derrière républicain, c'est-à-dire on peut dire il est républicain parce qu'il joue le jeu des institutions de la République, mais le fond de son idéologie, je reste sur l'hypothèse d'un député monarchiste, mais le fond de son idéologie est par définition la négation de la République. Donc on peut dire il est dans le jeu des institutions républicaines, pour autant il n'est pas républicain. Moi, ma définition du Rassemblement National, ça reste un parti d'extrême droite, et pas simplement par sa filiation. Aujourd'hui, c'est vrai, on dit c'est un parti, regardez. Le Front National a été fondé, il y avait un ancien SS, il y avait un milicien, il y avait un ancien OAS, etc. etc. Bon. Bien sûr, c'est un élément d'appréciation, mais ce n'est pas le seul. L'élément qu'il faut prendre aujourd'hui en compte, c'est le programme du Rassemblement National. C'est ce programme-là qu'il faut regarder, et c'est à partir de là qu'on détermine si c'est un parti d'extrême droite, et si ce parti d'extrême droite, dans l'hypothèse où il arrivera au pouvoir, serait le continuateur de la République telle que nous la concevons. Moi, je dis non.
Serge, est-ce que tu penses que le programme aussi, notamment le volet un peu social, ouvrier, tu vois, le vote ouvrier va beaucoup au Rassemblement National aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas que c'est un écran de fumée pour à but électoraliste ?
Un écran de fumée, pas forcément, parce que d'une part, les gens qui votent pour le Rassemblement National et qui sont souvent d'anciens électeurs de gauche votent parce qu'ils sont déçus de la gauche et des politiques qu'a menées la gauche, et notamment François Hollande. Donc aujourd'hui, ils remettent tous leurs espoirs sur Marine Le Pen, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois, sur le SMIC, sur toutes les mesures sociales, Marine Le Pen n'est pas au rendez-vous, et les députés du Rassemblement National ne sont pas au rendez-vous. Ils ne sont pas aux côtés des couches populaires, c'est pas vrai. L'ensemble des votes le montre. On pourrait d'ailleurs, moi j'aimerais bien, dans le cadre du développement de la chaîne, pouvoir consacrer des émissions de ce type à faire des bilans sur ce que les uns et les autres font à l'Assemblée nationale, au Sénat, par rapport à leurs engagements. Lorsqu'on prétend représenter le peuple français, est-ce qu'on se bat pour le peuple ? Et on peut regarder mesure par mesure, réforme par réforme.
Mais est-ce que tu penses que ça, a un impact ? Est-ce que si les gens savaient ce que votaient les différents partis politiques, mais précisément, est-ce que tu penses qu'il y aura un impact aux élections ?
Je pense en tout cas que c'est un élément d'information qui peut contribuer à la réflexion. Ensuite, il y a une telle détestation de, je dirais, la classe politique traditionnelle. C'est vrai que les gens se tournent vers le Rassemblement National par rejet du système, par rejet des autres partis.
Alors, une question de A Little Down. Pourquoi tout le monde a peur que le Rassemblement National arrive au pouvoir ? N'est-il pas impossible de prendre des mesures trop extrêmes grâce au Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel, on a vu ce qu'il a pesé au moment du projet de loi immigration. La décision du Conseil constitutionnel, tout le monde dit « le Conseil constitutionnel a assuré le service après-vente ». Non, le Conseil constitutionnel a écarté ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. C'est-à-dire les articles de la loi qui n'étaient pas dans le cadre visé par la loi. C'est-à-dire toutes les mesures, finalement, qui étaient des mesures greffées sur un projet de loi immigration, mais qui ne concernaient pas l'immigration. Bon. Mais les mesures qui sont restées ne sont pas forcément des mesures qui sont nécessaire, ou en tout cas qui correspondait à ce qui était le premier projet de loi immigration déposé notamment par Dussopt et par Darmanin. Le projet a été durci, les curseurs ont été poussés au maximum. Donc le Conseil constitutionnel, c'est pas le parachute. On peut prendre des mesures qui sont tout à fait constitutionnelles et qui sont pourtant des mesures d'extrême droite. Une autre question ?
Oui, j'écrivais un temps. Mais du coup, pourquoi, comme dit Little Don, les gens ont peur du RN au pouvoir ?
Parce que c'est toujours le problème avec l'extrême droite. On sait comment ça commence et on ne sait jamais comment ça finit. Et tous les pays européens qui font aujourd'hui l'expérience de régimes autoritaire, on va dire, que ce soit en Italie, que ce soit en Hongrie, ou les percées d'extrême droite qu'on voit ici et là, la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'on veut ça ? Est-ce qu'on veut l'Italie de Meloni ? Voilà, c'est simple, c'est à côté, l'Italie. Est-ce qu'on veut l'Italie de Meloni ? Qui a mis beaucoup d'eau dans son vin parce que effectivement elle est arrivée en surfant sur la vague anti-immigration, et aujourd'hui elle en est à demander le soutien de l'Europe pour faire face à l'immigration. Voilà. Donc elle a bien adouci son discours. Cela étant, ça reste l'extrême droite italienne.
Une question de Laurent, mais un autre Laurent. Ça revient souvent d'ailleurs ces questions-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir pour échouer, pour ne pas être un éternel opposant, mais le comptable d'un mauvais bilan? C'est le fameux faut tester, on n'a pas testé, il faut tester quoi.
Écoutez, moi j'ai pas envie de tester. Voilà. C'est un peu comme des coups de marteau sur la tête, hein. On peut se dire finalement, contre le mal de tête, peut-être que les coups de marteau sur la tête, ça guérit, hein. C'est une possibilité, c'est peut-être mieux qu'un Doliprane. Mais j'ai pas envie d'essayer. Voilà.
Parce que tu sais que ça fait mal.
Je sais que ça fait mal, et puis je sais surtout que souvent le patient succombe. Non, pourquoi je dis ça? Parce que moi, il se trouve que dans mon histoire personnelle, j'ai vécu à Santiago du Chili dans les années 80, à l'époque du général Pinochet. Je peux vous parler pendant des heures de ce que c'est que l'extrême droite au pouvoir. Je peux vous en parler pendant des heures. Ce que c'est sur le plan social, sur le plan des libertés, sur le plan des femmes, sur le plan de l'avenir des jeunes, sur le climat de délation, de peur, de terreur, les tortures, etc. Je peux vous en parler pendant des heures. Je ne veux pas ça pour mon pays.
Mais Marine Le Pen, elle a une image plus moderne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est plus pareil. Tu vois, Jean-Marie Le Pen, c'est terminé, comme si c'était très lointain. Et aujourd'hui, le Rassemblement national aurait vraiment largué les amarres par rapport au Front national.
Non, mais les habits neufs de l'extrême droite ne changent pas le cœur du problème. Est-ce que la politique que mènerait l'extrême droite, si elle accédait au pouvoir, serait une politique sociale? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Son programme n'est pas un programme social. C'est un programme qui essaye et qui réussit à attirer, à capter les catégories populaires, mais sur le fond, dans le détail des mesures, pardon, moi, quand on m'explique qu'on va, par exemple, sur les heures, prenons simplement l'exemple des heures supplémentaires, quand on dit, on va défiscaliser les heures supplémentaires, vous allez gagner plus, c'est formidable et tout. Non, c'est du salaire indirect qui est volé aux travailleurs. C'est la même histoire qu'on avait connue avec Sarkozy, qui est reprise dans le programme du Rassemblement national, sur les femmes, sur l'avortement, sur le partage de la valeur, tout simplement. Ça reste un programme d'extrême droite. Alors certes, les gens sont en costume cravate, c'est pas le bruit des bottes dans les rues, mais vous remarquerez une chose quand même, c'est que dans le sillage du Rassemblement national, un certain nombre de groupes identitaires aujourd'hui relèvent la tête. Des groupes qui avaient un peu disparu du paysage, et aujourd'hui, il y en a certains qui rêvent du grand soir à leur manière. Voilà. Donc c'est clair que demain, l'accession du Rassemblement national au pouvoir, d'abord, ce sera une crise politique sans précédent. Pas tant parce que ce sera pas l'accession elle-même qui sera qui provoquera la crise. C'est parce qu'il y aura eu un effondrement du reste de l'offre politique que le Rassemblement national parviendra au pouvoir. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est quoi? C'est 40%. Bon, donc ils sont aux portes du pouvoir. En même temps, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi en face quand même des gens qui n'en veulent pas. Il y a la moitié de la France qui ne veut pas que le Rassemblement national accède au pouvoir. La question, c'est que cette moitié-là ne trouve toujours pas le cadre d'organisation politique qui lui permet de s'opposer à l'arrivée du Rassemblement national. Parce que la gauche est divisée, parce que tout ce qu'il peut y avoir de courant démocrate ou authentiquement républicain au sein de la droite, au sein du centre, eux aussi sont atomisés, donc et qu'il y a un déplacement du bloc présidentiel vers la droite de plus en plus marqué. Voilà.
Mais là, Serge, parce qu'il y a les élections européennes hein, qui se tiendront au mois de juin, pour le moment, la gauche est éparpillée façon puzzle. C'est très peu probable que la gauche fasse quand même un score supérieur aux attentes et aux sondages. Qu'est-ce qui se passerait là dans les prochaines années?
Alors, sur les européennes, il faut avoir conscience que c'est une espèce de congrès à ciel ouvert de la gauche. C'est-à-dire que le calcul des uns et des autres, aussi bien des écologistes que des socialistes, pas de la France insoumise, c'est pas ce qu'ils voulaient au départ, mais bon, il se trouve que la situation est comme ça, et même du Parti communiste, c'est de dire, on va mesurer dans une élection à la proportionnelle, un seul tour et sans enjeu politique aussi important que des élections législatives ou une présidentielle, on va mesurer le poids des uns et des autres. Et grosso modo, on s'aperçoit que le Parti socialiste, les Verts sont pas loin des 10%, LFI est plutôt vers les 7%, 6%, ça peut bouger, hein, c'est selon les instituts de sondage, et on est encore à 3-4 mois du scrutin, donc ça peut bouger. Mais enfin, on commence à avoir une idée du rapport de force. On sait que le Rassemblement national est en tête, que 10 points derrière, il y a le bloc présidentiel Renaissance, et puis ensuite on a les Républicains, les Verts, les écologistes, les Verts.
Les écologistes.
Maintenant ils s'appellent les écologistes. Et puis LFI et le Parti communiste.
Est-ce que tu penses que le RN est surestimé? Parce que ces dernières années, les sondages, à chaque fois, c'est Marine Le Pen grande gagnante et elle ne se rétame pas aux élections, mais elle prend 3, 4, 5 points de moins que sur les sondages. Est-ce que ça va se reproduire, ça? Parce qu'elle est à 30%, je crois, dans les derniers sondages. Enfin, c'est la liste de Jordan Bardella, du coup. Et Renaissance, là, on est sur du 18%. C'est colossal, la différence. Est-ce que tu penses qu'on irait sur une différence aussi énorme?
Ah, je le pense sincèrement.
Aussi énorme, quoi.
Je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que le bloc présidentiel est fracturé. Le projet de loi immigration a complètement fracturé le bloc présidentiel et de manière durable. Que deuxièmement, il y a des appétits qui se réveillent aujourd'hui. Édouard Philippe, je dirais, commence à sortir de l'ombre.
Se prépare.
Mais il se prépare vraiment activement. Horizon a pris ses distances avec Renaissance. En plus, il y a une brouille entre les deux partis, puisque vous savez qu'il y a deux députés de Renaissance qui sont passés à Horizon, et ça a été perçu par Sylvain Maillard, le président du groupe parlementaire Renaissance à l'Assemblée, comme une espèce de trahison ou de débauchage insupportable. Il y a un président de région qui est passé aussi à Horizon. Donc tout ça fait que ça se désagrège, et en plus il y a aujourd'hui, alors, la fameuse aile gauche de la Macronie. Je sais que vous allez encore me brocarder là-dessus en me disant, mais Serge, à chaque fois tu nous parles de l'aile gauche de la Macronie, mais tout ce qui était ministre...
C'est qui, Serge? C'est qui? On veut des noms.
On a Sacha Houlier, on a Roland Lescure, etc. Ils sont à gauche de la Macronie, on va dire, oui, mais ils sont pas à gauche, hein. On est en train de parler de gens qui sont à gauche d'une formation de droite. Voilà. Donc,
pour toi, c'est clair, formation de droite, bam.
Maintenant, je constate que si le bloc Renaissance, Modem, Horizon n'a pas les Républicains avec eux, aucune loi ne passe. C'est une réalité. Sans les Républicains, aujourd'hui, le bloc présidentiel est totalement minoritaire. Ils en sont parfaitement conscients. Donc aujourd'hui, ils se sont déplacés à droite parce que depuis les dernières législatives, ils n'ont plus la majorité absolue. C'est l'arithmétique en politique est quand même un facteur qu'il ne faut jamais perdre de vue. Donc aujourd'hui, ils se sont déplacés à droite, pas forcément parce qu'ils voulaient vraiment aller à droite, mais pour rester au pouvoir et pouvoir gouverner le pays pendant encore 3 ans, ils sont obligés de composer avec LR. Et LR, pour survivre, a besoin de damer le pion au Rassemblement national. Et pour damer le pion au Rassemblement national, LR s'aligne sur les positions du Rassemblement national en disant aux électeurs, en gros, c'est pas la peine de voter pour le Rassemblement national, votez pour nous, c'est la même chose, mais on est vachement mieux, on sait faire, on a l'habitude de l'appareil d'État, alors que les autres, c'est des petits nouveaux. Voilà. Donc tout le monde s'aligne indirectement sur les positions du Rassemblement national parce que c'est une question de survie politique pour les 3 années qui s'annoncent.
Mais pourquoi on ne s'alignerait pas sur des propositions de gauche? Question un peu naïve, Serge, mais pourquoi on ne pencherait pas plus à gauche?
Ah, mais ce serait une éventualité qui pourrait être envisagée. On pourrait avoir Emmanuel Macron qui dit, puisque je n'arrive pas à gouverner avec la droite, puisque c'est la surenchère permanente, je peux jouer la carte d'une gauche responsable. Encore faut-il trouver des interlocuteurs. Et les interlocuteurs, quels sont-ils? Ça pourrait être le Parti socialiste, mais encore faut-il que le Parti socialiste représente quelque chose électoralement. Et ça, on le saura au lendemain du scrutin des européennes. Et puis, deuxième paramètre, c'est qui aujourd'hui à gauche envie de travailler avec Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'on se bouscule au portillon. Il y a plein de gens qui veulent remplacer Emmanuel Macron, mais je dirais que c'est un peu trop tard pour Emmanuel Macron. S'il avait voulu changer son fusil d'épaule, c'est un peu trop tard. C'était au lendemain des législatives qu'il fallait dire. Il fallait dire, bah, écoutez, je prends acte aujourd'hui que nous n'avons plus la majorité absolue. Je considère que pour la bonne marche du pays, il nous faut travailler avec des forces d'opposition, et ces forces d'opposition, elles sont à gauche. Fin de la discussion. C'était une possibilité. Il n'a pas voulu trancher. Il a travaillé de préférence avec les Républicains, parce que les Républicains, c'est le maillon faible. C'est finalement, eux, ils sont pris entre deux feux, entre le Rassemblement national et puis le bloc présidentiel. Donc, ils ont besoin d'exister. Ils s'en demandent.
Voilà. Ils tiennent aussi un peu les ficelles, tu vois. On les a donnés un peu pour morts il y a 2 ans, bientôt. Ils tiennent les ficelles. Tu as bien vu sur la loi immigration, ce qui s'est passé au Sénat, quoi.
Ben, ils tiennent les ficelles, comme toute force d'appoint tient les ficelles. Mais le MoDem, aujourd'hui, est en situation de faire à peu près la même chose. Il faut quand même bien voir la situation politique. Si le MoDem suivait les recommandations de François Bayrou, ça c'est une autre histoire, mais le MoDem pourrait dire, ben, nous, écoutez... on va prendre un petit peu nos distances avec tout ça. C'est pas la politique qu'on veut faire. Et de fait, le MoDem n'est pas le groupe le plus à droite du bloc présidentiel. C'est pas vrai. Le MoDem reste c'est un électorat démocrate chrétien, centriste, qui, le cas échéant, pourrait composer avec une partie de la gauche. Hein. C'est pas infamant de le dire.
Serge, pour boucler sur les européennes, une question de Flying Scootman. Pourquoi la LFI peut faire 7% aux européennes et près de 22% présidentielles si les européennes sont un indicateur de ce que chaque parti représente, ce que tu as dit tout à l'heure?
Je suis très content de cette question parce que ça va me permettre d'aborder une faille dans que je pense être dans le raisonnement électoral de LFI. Et je pense que c'est une faille. Je m'explique. Jean-Luc Mélenchon a réuni 22%. Mais dans ces 22%, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté utile dès le premier tour. Des électeurs socialistes, des électeurs communistes, et qui ont choisi de voter Mélenchon parce que, de leur point de vue, c'était la seule chance que la gauche avait d'être au second tour. Donc, il y a un vote utile dans le vote Mélenchon. L'erreur, à mon sens, de LFI, c'est de croire que cet électorat lui était définitivement acquis. Ce n'est pas vrai. Cet électorat, aujourd'hui, il retourne un peu vers son écurie d'origine, ce d'autant plus facilement que, comme je l'ai dit, l'élection européenne n'est pas une élection qui bouleverse les rapports de force nationaux immédiatement. Elle est perçue par les gens comme ayant un enjeu moins important. C'est un vote de conviction. Et c'est comme ça d'ailleurs, par exemple, c'est très amusant, mais on voit que les écologistes présentent le fait de voter pour eux de cette façon, c'est-à-dire voter pour nous pour montrer que nous, les écologistes, nous représentons une force. Voilà. Et c'est la même chose, chacun essaye de se compter pour ensuite peser dans les négociations futures, celles qui permettront de désigner des candidats pour les municipales, et puis la candidature à la présidentielle.
Et si tous les trois partis font à peu près le même score, c'est quoi, c'est le chaos absolu?
Non, mais je pense pas que les trois partis feront le même score. Je pense qu'il y aura quand même des différences. Je dirais que les écologistes et le PS se tirent la bourre, hein, et puis juste en dessous, il y a LFI. Bon, ça peut encore bouger, peut-être que la campagne peut modifier tout ça. Jean-Luc Mélenchon n'est jamais aussi bon qu'en campagne électorale. Je ne sais pas jusqu'à quel degré il s'impliquera dans cette campagne, mais donc ça peut bouger, mais d'un ou deux points. Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au lendemain des européennes, tout le monde dira, on fera l'addition, on dira, vous rendez compte, si on additionne le score des Verts, le score des communistes, le score des socialistes et le score de LFI, on aurait fait plus de 30%, on serait devant le Rassemblement national. Ce raisonnement n'est pas vrai. Ce raisonnement n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'électeurs, par exemple du Parti Socialiste, vont voter pour le Parti Socialiste, mais n'auraient jamais voté pour le Parti Socialiste qui aurait accepté d'être dans une liste NUPES. Parce qu'au sein du Parti Socialiste, il y a des gens qui sont adversaires de la NUPES. Et la même chose est vraie pour les écologistes. Et même chez les communistes, il y a des gens, les amis de Fabien Roussel, je ne suis pas certain qu'ils auraient voté de gaieté de cœur pour une liste de la NUPES.
Au PS, on pense à Carole Delga, Nicolas Meillard-Rossignol.
Ben voilà, c'est-à-dire toute l'opposition interne d'Olivier Faure, je ne pense pas qu'ils se seraient précipités dans les urnes pour aller apporter leur suffrage à une liste qui aurait mêlé l'ensemble des forces de gauche. Donc, l'argument qui consiste à dire si on additionne toutes les listes de gauche, on éclate tout le monde, c'est pas sûr. Je suis pas persuadé qu'une liste de la NUPES serait passée devant celle du Rassemblement National. Elle aurait peut-être fait jeu égal, mais
okay.
Les sondages montrent quand même que ça aurait peut-être un petit peu en dessous. Voilà. Et enfin, bon, maintenant, c'est trop tard.
Bon, j'ai une question à 2 milliards là.
Oui.
Bachar Baridi, est-ce que vous pensez que Mélenchon est son propre pire ennemi, surtout quand on voit la situation actuelle avec une chasse aux anti-Mélenchon? Je pense que la chasse, c'est interne au mouvement France Insoumise.
Moi, je... Alors, puisqu'on me demande mon avis sur Mélenchon, je vais le donner. Moi, je suis à la fois très admiratif de ce qu'est Mélenchon, c'est-à-dire que... je pense que c'est ce que le système politique a produit de plus structuré ces dernières années. Mélenchon, c'est un personnage politique qui a du fond. Ce qui est pas, on peut pas en dire, on peut pas dire la même chose de beaucoup d'acteurs politiques. Maintenant, le problème de Jean-Luc Mélenchon, je pense que il en a deux. Premièrement, c'est de ne plus être député à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il a fait une erreur en quittant l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale, c'est un cadre où on peut exister facilement. Il y a des occasions, des circonstances où la voix de Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, c'est pas faire injure à Mathilde Panot ou à d'autres représentants de la France insoumise, mais à côté de l'orateur du tribun Jean-Luc Mélenchon, leur voix porte moins dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. Et je pense que si Jean-Luc Mélenchon était resté dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, il aurait peut-être eu une perception plus fine, plus nuancée de la réalité politique. Je pense que cette prise de distance l'a amené à adopter des positions qui sont à la limite de la caricature, qui sont des positions davantage protestataires que des positions politiques.
Bah, on en avait parlé, Serge, il a peut-être perdu la culture du compromis.
Ce n'est pas une culture du compromis, c'est peut-être un rapport au réel. C'est cette prise de distance qui fait qu'il y a un peu de pardon de le dire comme ça, mais il y a un peu de perte de flair ou de finesse ou de nuance. Voilà. Ce qui le conduit, d'une part, à se raidir. En plus, il a un caractère qui est le sien. Nous avons tous notre caractère. Mais quand Jean-Luc Mélenchon est attaqué, il a tendance à se raidir, ce qui ne favorise pas, bien sûr, le débat. Et puis, il y a une deuxième question, qui est que un mouvement qui, aujourd'hui, compte plusieurs dizaines de députés, c'est pas le mouvement avec 17 députés du premier quinquennat. C'est-à-dire, c'est autre chose. Et aujourd'hui, la question qui se pose à laquelle Jean-Luc Mélenchon ne veut pas vraiment répondre, c'est la transformation d'un mouvement qui est un mouvement pour la présidentielle en parti politique. Et tant que cette question n'est pas posée au sein de la France insoumise, il n'y aura pas d'évolution. Il n'y aura pas d'évolution. Ce que demandent les gens qu'on est allé filmer avec Benjamin Danan, c'est qu'ils ne remettent pas en cause les dirigeants. Il n'y a pas de remise en cause des dirigeants. Il n'y a pas de remise en cause du programme. Il y a remise en cause du fonctionnement de la France insoumise, c'est-à-dire une absence de collégialité, une absence de démocratie interne, une absence de débat collectif. Voilà, c'est ça qui est remis en cause.
On a plusieurs questions, Serge, sur François Ruffin.
Bon, oui.
Très souvent, est-ce que François Ruffin pourrait rassembler plus large?
Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui pour deux raisons. C'est que premièrement, c'est celui qui a le capital d'empathie, le capital de détestation le plus faible au sein de la France insoumise. En d'autres termes, il n'y a pas de contentieux entre lui et les socialistes, entre lui et les écologistes, entre lui et le PC. Aujourd'hui, entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, je suis pas persuadé qu'ils partiraient en vacances ensemble. Voilà. Même chose, non, ne parle pas de Fabien Roussel et de Jean-Luc Mélenchon. Donc la vraie question, c'est que pour rassembler, il faut rassembler en 2027, ne nous trompons pas, il faut rassembler la gauche et au-delà de la gauche. La gauche, c'est 30%. Donc, il faut aller chercher 20% ailleurs.
Mais
Il
du
faut aller
coup.
chercher 20% ailleurs. Donc, qui peut le faire? C'est quelqu'un qui a à la fois la confiance de la gauche et qui est capable d'être entendu chez des électeurs qui n'auront pas envie de se ranger à des solutions extrêmes comme le Rassemblement national.
Bah, on dit souvent que Ruffin, c'est un missile anti-RN. Il serait capable de parler, bah, c'est un peu dans son fief, hein, en Picardie. Est-ce que tu penses qu'il serait performant au niveau national? Sur cet électorat-là?
Je pense qu'il sera en tout cas mieux reçu. Il sera en tout
D'accord.
cas mieux reçu parce qu'il parle de choses qui sont réelles, qui sont immédiates, qui sont. Et puis c'est le fameux débat sur les fâchés, pas fachos. Voilà, c'est-à-dire est-ce que les électeurs du Rassemblement national sont, je dirais, définitivement perdus? Ou est-ce que c'est des gens qui votent en désespoir de cause pour le Rassemblement
Ouais,
national?
c'est la question,
C'est la vraie question.
dans quelle proportion c'est un vote raciste? C'est toujours pareil, on n'en sait
Mais
rien.
c'est pas qu'il n'y a pas que le racisme. Je pense pas que la question, elle soit aujourd'hui autour du racisme. La question, elle est aujourd'hui autour de l'autorité. La demande dans le pays, c'est l'ordre. La demande dans le pays, c'est l'ordre. Et cet ordre, il peut être il peut s'exercer de deux façons. Ça peut être ce qu'avait très bien dit en son temps Ségolène Royal, l'ordre juste, c'est-à-dire un ordre économique juste, une justice sociale, une justice économique. La fin des privilèges, c'est ça l'ordre aussi, hein. Faut pas, c'est pas l'ordre, c'est pas, c'est le contraire du désordre, mais c'est le contraire du désordre économique et du désordre social. Et je pense que Ségolène Royal avait perçu quelque chose en son temps. On a dit beaucoup de choses sur cette pauvre femme qui malheureusement aujourd'hui se perd un peu politiquement. Mais je pense qu'à l'époque elle avait mis le doigt sur une attente profonde, c'est qu'on veut un ordre juste. Oui, on veut en France que les méchants aillent en prison, et les méchants, c'est pas uniquement ceux qui cassent des bagnoles, etc. C'est aussi le CAC 40, c'est aussi les gens qui se goinfrent avec des dividendes absolument invraisemblables. C'est ça, la réalité. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, tiens. Oui, alors donc, il y a cette demande d'autorité et d'ordre juste. Je pense pas que la question de l'immigration soit une question centrale. C'est pas une question centrale. Le Rassemblement national veut la présenter comme la question centrale. Mais lorsqu'on regarde toutes les études, toutes les enquêtes d'opinion, c'est une question qui vient en troisième, en quatrième position. La première question, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité. Question sur laquelle la gauche a toujours un discours
Mais
assez.
ça, du coup, la sécurité, le Rassemblement national joue systématiquement la carte de l'immigration.
Mais le Rassemblement national, et c'est pour ça qu'on parle de victoire idéologique, le Rassemblement national a réussi à mettre un signe égal entre sécurité et immigration. De dire, vous voulez plus de sécurité,
Mmh, c'est
donc il faut
ça.
plus d'immigration. Ça, ils ont réussi à l'imposer dans le débat. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Ça, c'est peut-être la plus grande fraude, effectivement, de ces dernières années. Toujours associer les problèmes de sécurité à un immigré, quoi.
Oui, mais c'est un clou sur lequel il tape depuis 1972, hein,
Ah ouais.
depuis la fondation du Front National. Donc,
Donc, Serge, tu l'as mentionné, le premier sujet qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat. Bruno Le Maire a annoncé, il n'a pas demandé, il a annoncé pour une fois, 10 milliards d'économies. Donc, sur différents services publics, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
oui, alors d'abord, moi j'adore cette façon de présenter les choses. On te présente l'État comme étant un État vertueux qui a décidé de faire des économies. l'État va économiser 10 milliards. Alors, normalement, tu es censé, devant ton téléviseur, sauter de joie, trépigner et dire merci. Sauf que non, c'est pas l'État. L'État, c'est nous. Hein? la République, c'est nous, si j'ose dire. L'État va réduire son train de vie. Ça veut dire que c'est moins de services publics. Ça veut dire qu'on va enlever 10 milliards au budget de l'État. Donc, ces 10 milliards, bien sûr, on va aller, par exemple, tout ce qui est transition écologique, etc. Je dis à mes amis, à nos amis écologistes, il ne vous reste plus que vos yeux pour pleurer, parce que, de toute manière, toute la politique autour de l'écologie va être abandonnée par pans entiers. Bon, et puis sinon, on va continuer à casser l'éducation nationale, à casser la santé, à casser la protection sociale. Voilà, c'est là qu'on va prendre l'argent.
A priori, c'est l'éducation nationale où ce sera le plus rude.
Et c'est, si on regarde ces 10 milliards, comme un fait exprès, si on fait le CICE, la flat tax, etc., et les différentes baisses d'impôts de ces dernières années, on trouve ces 10 milliards. C'est-à-dire qu'on a 10 milliards de cadeaux qui ont été faits aux entreprises sans contrepartie, sans aucune contrepartie. C'est quand même formidable. On donne de l'argent aux entreprises, très bien, pourquoi pas? Mais il faut avoir en face des contreparties, c'est-à-dire des contreparties sociales, des contreparties en matière d'emploi, etc. etc. Là, absolument rien, on baisse les impôts, on dit allez, enrichissez-vous, formidable, et vous allez voir, la théorie du ruissellement fait que la société va baigner dans un bonheur infini. Ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas le cas. Donc, l'État s'appauvrit de 10 milliards. Et ceux qui vont payer la facture, c'est nous, citoyens, contribuables.
Bon, c'est quand que je vote pour toi, Serge? Alors, je chambre souvent Serge. Voilà.
Oui, il me chambre aussi sur François Mitterrand régulièrement.
voilà. Parce que tu es un mitterrandiste, hein, Serge.
Non, je ne suis pas un mitterrandiste, mais je fais une petite remarque. Souvent... Jean-Luc Mélenchon fait référence, lorsqu'on discute avec lui, à nos années Mitterrand. Fait référence à François Mitterrand. Pourquoi? Parce que les années Mitterrand ont été une espèce de petit laboratoire de tout ce qui peut se faire en politique et à poser immédiatement les questions auxquelles serait confronté n'importe quel gouvernement de gauche l'avenir. C'est-à-dire la question de l'éducation nationale et de l'enseignement privé. Et là-dessus, la gauche a échoué. Hein, l'abandon de la loi Savary, le grand service public laïque unifié de l'éducation nationale a coulé corps et biens, avec le ministre d'ailleurs. Et puis c'est le tournant de la rigueur en 1983. C'est-à-dire ces deux écueils fondateurs sont les deux écueils qui expliquent d'une certaine façon pourquoi la gauche a été dans une espèce de décroissance et de dégénérescence jusqu'au hollandisme. Voilà.
Est-ce qu'on parle de CNews, Serge?
Parlons de CNews.
Alors, donc, tu as fait un édito, d'ailleurs, ça intéressera les gens si vous n'avez pas vu le Pôle Express de lundi. Serge a pris quelques minutes pour expliquer ce qui s'est passé avec le Conseil d'État et l'ARCOM sur le fait de surveiller CNews. Hein. Serge, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu?
Alors, faisons simple. Reporters sans frontières avait demandé à l'ARCOM de prendre en compte, enfin, plus exactement, de s'assurer que le pluralisme était respecté au sein de CNews. Et l'ARCOM a dit, écoutez, nous accomplissons notre mission, donc circuler, il n'y a rien à voir, on ne voit pas pourquoi on accéderait à votre demande. Du coup, il y a eu une saisine du Conseil d'État par Reporters sans frontières, et le Conseil d'État a redéfini la définition du pluralisme dans les chaînes de télévision, puisqu'il faut savoir que le nombre de chaînes est limité. Donc, le législateur a dit, puisque le nombre de chaînes est limité, le pluralisme doit être présent dans chacune des chaînes qui bénéficient d'une fréquence. Alors que dans la presse écrite, on peut dire, et le postulat de départ est le suivant, comme on peut créer à l'infini des journaux papier, ou même sur le web, on peut créer à l'infini des chaînes YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, on peut considérer que le pluralisme, il y a une espèce de pluralisme naturel qui fait que
à une chaîne... Le libre marché.
Voilà, c'est un peu la main invisible du pluralisme, si j'ose dire, qui va faire que à une chaîne d'extrême droite va répondre une chaîne d'extrême droite, d'extrême gauche, à une chaîne de droite, une chaîne de gauche, à une chaîne de centre droit, une chaîne de centre gauche, etc., etc. Donc, il y a une espèce d'équilibre dans l'offre éditoriale globale qui s'offre à chaque citoyen. C'est totalement différent dans un panorama. Il y a une trentaine de chaînes de la TNT aujourd'hui. Et donc, le législateur a fixé une obligation de pluralisme en interne. Comment était-elle appréciée jusqu'à présent? En fonction des invités politiques qui s'exprimaient sur les différentes chaînes. Donc, j'invite Mathilde Panot, j'invite Jordan Bardella, tac, 10 minutes pour l'un, 10 minutes pour l'autre, c'est très bien, youpi. J'invite Sylvain Maillard, Renaissance, hop, 10 minutes. J'invite Olivier Marleix, 10 minutes. Et à la fin du mois, on fait petites additions, on dit, grosso modo, on a respecté le pluralisme. Bon, alors attention, ce pluralisme n'est pas une symétrie des temps de parole. Hein, c'est un pluralisme qui s'apprécie selon une règle d'équité. En gros, on part du principe que l'espèce de répartition à l'Assemblée nationale, de la représentativité des différents partis doit se refléter à l'intérieur des chaînes. Donc, il est évident que Lutte ouvrière sur CNews, on les verra moins souvent, je dirais, que LFI, que le Parti socialiste, ou que voilà. Et pareil pour les autres groupes. Mais c'est comme ça que c'est apprécié. Il n'y a que dans les périodes électorales où on est à la minute près, on dit, il y a tant de minutes pour telle formation et ça doit être respecté à la limite près. Bon. Alors, que dit le Conseil d'État? Il dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre en compte non seulement l'expression des invités politiques, des élus qui ont une étiquette revendiquée, mais il faut prendre aussi l'expression des chroniqueurs, des experts qu'on peut éventuellement convoquer, et puis des journalistes. C'est-à-dire tout ce qui apparaît à l'antenne doit être pris en considération dans le calcul ou dans l'appréciation du pluralisme.
Mais ça, Serge, on est sûr que ça va s'étendre à l'ensemble des chaînes de la
télévision. Oui, c'est pas spécifique à CNews. Je veux
dire, y compris pour les journalistes, par exemple.
Pour tout le monde. Et c'est là que le mieux est l'ennemi du bien. C'est que donc on va demain se demander si tel ou tel journaliste, je ne sais pas, tel journaliste de BFM ou du service public d'ailleurs. On peut considérer que lorsqu'il s'exprime, il est plutôt à gauche, il est plutôt à droite. Alors peut-être qu'il est à gauche ou à droite, mais le point de vue qu'il va défendre est-il un point de vue militant ou un point de vue de journaliste? Autrement dit, c'est l'exemple que je prenais. Moi, j'ai trouvé le discours d'Emmanuel Macron sur Manouchian hier. Il y avait quelques facilités de langage, etc. Mais enfin, il y avait tous les éléments que j'attendais en tant que républicain. Et j'étais sincèrement touché par ce discours qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'il peut faire par ailleurs.
Bon. Donc, tu es de droite.
Imaginons, demain, je présente un journal de 20 heures, et je rends compte de cet événement. Et on pourrait considérer que ce temps de parole, en tant que journaliste, et à attribuer ou à comptabiliser au profit de l'expression de Renaissance et du président de la République. Ça n'a aucun sens. C'est totalement absurde.
Mais donc, du coup, ça va aboutir à quoi, à ton avis?
Alors, je pense que l'ARCOM est très emmerdé, mais vraiment, pour que son président aille s'exprimer dans la tribune et fasse des déclarations assez fortes en disant nous ne sommes pas un tribunal de l'opinion, nous ne sommes pas la police de la pensée, ce sera une appréciation globale. Très bien, mais cette appréciation globale, elle doit reposer sur des critères objectifs. Comment? Parce que si on doit dire demain, écoutez, CNews, moi je regarde CNews, voilà, je regarde CNews, pas 24 heures sur 24, je vous rassure, je regarde CNews. Et objectivement, je porte une appréciation en tant que citoyen. Je dis, c'est une chaîne dont le discours, pas tous les intervenants, c'est pas systématique. Enfin, il y a quand même un discours dominant, prégnant, qui est du registre de l'extrême droite. Bon, Voilà, ça c'est mon appréciation en tant qu'individu. Je suis libre de la porter. Maintenant qu'une institution administrative aille catégoriser l'ensemble des médias de la TNT en disant là, ceux-là, ils sont plutôt à gauche. Alors ils vont dire France Inter, c'est plutôt à gauche. Hein, voilà. BFM, c'est entre les deux. Et puis on aura CNews qui sera le repoussoir. Je veux dire, ça m'apparaît totalement absurde comme critère.
Et puis s'il manque de la place à gauche, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut créer une nouvelle chaîne à gauche ? Tu vois, parce que là, les mecs, quand même, tendent vraiment à droite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Non. Tu te trompes. Je répète que le pluralisme doit s'exercer à l'intérieur de chacune des chaînes. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on va demander aux chaînes.
Je crois que CNews va le faire, par exemple.
Ah, je ne sais pas, mais personne ne sait. Concrètement, c'est un problème qui se pose à l'ensemble des patrons de chaînes aujourd'hui et à l'ARCOM de savoir comment se mettre en conformité avec la décision du Conseil d'État. Mais cette décision du Conseil d'État a force de loi. Faut pas s'y tromper. C'est pas une recommandation. C'est pas une suggestion. C'est une décision de justice. Non, voilà.
En fait, c'est une amende, c'est quoi? C'est une mise sous.
Ah ben, c'est l'ARCOM qui a à charge de définir des critères objectifs pour s'assurer que le pluralisme est respecté dans les chaînes, en prenant en compte les invités politiques, les invités qui sont pas politiques, les experts, les journalistes, les chroniqueurs, les consultants, et on met tout ce petit monde dans un espèce de panier à salade et on regarde si c'est suffisamment pluraliste. Ce qui est une tâche, moi j'attends qu'on m'explique comment on va faire. Oui. Et je pense qu'à l'ARCOM, ils doivent s'arracher les cheveux. C'est pas ça. Possible.
Donc on reste dans les spectatifs quoi sur
cette. Voilà, mais c'est une décision qui a bien sûr pour objectif de cogner un peu CNews, mais qui par ricochet va cogner l'ensemble des chaînes de la TNT.
Question de Sissif 73, faut-il limiter l'extension de l'empire médiatique de Bolloré ?
Alors moi j'ai une position beaucoup plus radicale. C'est celle que je défendais à la fin du petit édito que j'ai fait là dans le dernier Pôle Express. Moi, je suis pour interdire aux groupes industriels dont l'activité n'est pas majoritairement la presse de détenir des médias. Et je le dis pourquoi ? Parce que Pure Politique est membre du SPIL, syndicat d'éditeurs où il y a... Il y a Blast, Le Média, Basta, Reporter, Mediapart, etc. Et le critère d'entrée, c'est que les entreprises de presse ne doivent pas être détenues par des groupes industriels dont l'activité ne serait pas la presse. Voilà. Et je pense que cette simple barrière permettrait d'assainir le paysage. Parce que, fondamentalement, à partir du moment où un média doit s'appuyer essentiellement soit sur ses ressources publicitaires, soit sur son audience pour vivre et se financer, ça change quand même la donne sur son poids réel. Si demain, CNews était obligé de faire comme Pure Politique, ben de vivre des dons de ses spectateurs, je pense qu'il trouverait la situation un petit peu plus difficile. Voilà. Là, on peut subventionner. Les groupes qui sont propriétaires de ces médias se moquent bien de la rentabilité de ces médias. L'essentiel, c'est que ces médias existent et soient des relais d'influence pour eux. C'est ça.
On parle de propagande, est-ce qu'on peut ?
Non, pas de. Là, j'aime pas les termes. L'influence est beaucoup plus, plus subtile. Voilà, la propagande, c'est bon, grosse caisse avec des cymbales. Voilà, bon. Non, c'est. Mais. Je pense que si demain on rompt le cordon ombilical avec des groupes industriels qui se servent de ces médias audiovisuels pour le pouvoir, pour leurs intérêts, comme relais d'influence, je pense qu'on assainit la situation de manière radicale. Mais ça, il faut un gouvernement qui ait suffisamment d'audace pour le faire. Et moi, je rappelais ces exemples. Et, alors, bien sûr, là, ça fait un peu papy raconte histoire, hein, mais c'est cette promesse qu'avait faite la gauche et qu'elle a tenue au début des années 80, c'était d'en finir avec l'Empire Hersant. R100, c'était quoi? R100, c'était, bon, outre que le personnage avait une histoire assez, que je vous raconterai un autre jour, mais enfin, assez nauséabonde, mais R100 avait entrepris de racheter tous les journaux qui lui tombaient sous la main, et petit à petit, son empire s'est constitué, et plus il rachetait de journaux, plus il était en mesure d'en racheter d'autres. Et donc, il était en train de racheter quasiment l'ensemble de la presse quotidienne nationale et régionale française. Et il a fallu, donc, cette loi que la gauche a mise en place, une loi anti-concentration, qui interdisait à un même actionnaire de détenir plus de 10% dans différents journaux. Voilà. Et donc, on a limité, on a cassé l'empire R100 comme ça. Et là, de la même manière, il faut casser les empires médiatiques qui ne reposent pas sur la réelle valeur ou la réelle audience des médias qu'ils détiennent, mais sur des activités totalement annexes. Enfin, annexes, elles sont pas annexes, hein, dans le cas de Bolloré, c'est pas annexe, mais même pour Lagardère. C'est-à-dire que il faut absolument créer un cordon sanitaire autour des médias et faire que seules des entreprises de presse puissent posséder des médias. Sinon, on n'en sortira jamais.
D'ailleurs, Serge, cette situation a peut-être changé de sujet. Parler des agriculteurs et du salon de l'agriculture, si tu le veux bien. Parce que cette analogie, c'était un petit peu les grandes exploitations avec les petites exploitations qui se faisaient manger petit à petit, même très rapidement. Et on a eu le problème avec la FNSEA, hein, qui a mené la grogne ces dernières semaines. Il y avait Bachar Baridi qui en parlait un petit peu là sur le chat. Il nous disait que les écologistes disent que les mesures de Attal sont des reculades scandaleuses par rapport à l'écologie, notamment sur les pesticides.
Ah ben oui. Oui, c'est je pense que, soyons clairs, le glyphosate, ça menace qui en priorité? Ben, d'abord la santé des agriculteurs, parce que c'est eux qui pulvérisent le glyphosate ou qui l'utilisent en grosse quantité. Donc, c'est eux les plus exposés. Alors, quand on dit, oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, il n'y a pas de pesticides, de transition, etc., on n'y arrive pas, donc repoussons la date limite, etc. On pouvait dire la même chose de l'amiante. Pendant des années, il faut savoir qu'un des grands scandales sanitaires de l'histoire de France, c'est l'amiante. Où on a expliqué que oui, l'amiante, c'était certes peut-être un peu... Mais quand même, contre le feu, c'était vachement bien. Et ensuite, on a vu le nombre de cancers dus à l'amiante, on s'est empressé de désamianter l'ensemble des bâtiments. Et ça n'a pas été simple. Mais on aimait beaucoup l'amiante parce que c'était un matériau formidable qui résistait au feu, c'était sa qualité première. Et dans les années 70, il n'y avait pas un immeuble qui n'était construit sans revêtement d'amiante. Donc d'ailleurs, ceux qui posaient ce revêtement s'exposaient aux poussières. Et puis, comme c'était mal isolé, il suffisait qu'il y ait un faux plafond qui cède pour que les salariés en dessous soient exposés aux poussières.
Serge, si je ne me trompe pas, le plan Ecophyto prévu, c'était à l'horizon 2030, on réduisait de 50%, je crois, l'utilisation des pesticides.
Oui,
c'est
oui. Ça. Hein. Ben, ce plan a été mis sur une étagère pour l'instant. Voilà. Et alors on nous assure qu'il va revenir sous une autre forme.
Il va faire 10%
de... Alors l'histoire est subtile. Parce que le gros argument pour remiser le plan Ecophyto, c'est de dire, ben, vous comprenez, les critères qui étaient retenus, c'est-à-dire que le plan Ecophyto, il s'appuie sur des comparaisons avec les années précédentes sur l'utilisation des pesticides sur avec 10 années en arrière, 15 années en arrière, on a regardé un petit peu ce que ça faisait, des quantités utilisées, etc. Là, on nous dit, on oublie Ecophyto, on va faire un nouveau plan tout neuf et on va attendre d'avoir un peu de recul avec d'autres critères, avec une autre grille pour dire si qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc, c'est-à-dire qu'on se prive volontairement du recul qu'on a sur l'utilisation de ces pesticides pendant des années et des années. On sait quelles quantités ont été utilisées, où, comment, dans quelles circonstances. Et tout ce référentiel, on le jette à la poubelle avec le plan Ecophyto et on va sortir un nouveau plan qui fera appel à un nouveau référentiel. Et comme on n'aura pas de recul, il sera facile de dire, oui, mais attendez, il faut voir, attendons encore 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps.
C'est comme pour le changement climatique, quand on change la moyenne. La monnaie
Oui, non, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça.
c'est les climato-rassuristes maintenant, là, le c'est plus
Bon,
climato-sceptique.
et alors bien sûr, la FNSEA, qui représente quand même, qui représente des agriculteurs, mais surtout les gros agriculteurs, ne veut pas entendre parler, bien sûr, du plan éco-phyto. Alors, l'astuce a été de dire aux petits agriculteurs, mais vous voyez, le bio aujourd'hui, on n'y arrive plus, c'est pas une voie économiquement rentable, donc revenez à une agriculture avec des pesticides, etc. Voilà, bon.
Bon Serge, salon de l'agriculture, ça commence samedi.
Oui.
On y sera, hein?
Oui, alors,
Attends,
on y sera, oui et non.
on y sera,
Non,
Serge.
non, je vais expliquer tout simplement pourquoi. Parce que la visite de Macron, moi je me suis renseigné chaque année, je me dis, bah, tiens, je vais y aller, bah, formidable. Mais sauf que la visite du président de la République, c'est une visite, ce qu'on appelle poulet. Poulet, c'est-à-dire qu'il y a un poule qui est constitué par des chaînes de télé, des photographes, etc., qui prend des images qui sont ensuite accessibles par qui sont à disposition des rédactions via, alors je vous passe la technique, mais via un canal satellite payant. Et nous, on n'a pas les moyens de s'abonner à ce type de canal. Donc, fin d'histoire. Donc, moi, j'irai sûrement peut-être traîner avec une caméra pour faire les alentours du cortège présidentiel, parce que je pense qu'il y aura des manifestations, des huées, etc. Donc, je vais faire un peu d'ambiance. Mais ne vous attendez pas à voir des images exclusives, pure politique du président de la République. Il y aura suffisamment de sécurité autour de lui. Ben, en plus, on sait très bien que, premièrement, c'est une visite au milieu de la foule pendant plusieurs heures, et que deuxièmement, il y va alors que la grogne reprend. Voilà, donc il y a, ça va être une opération assez, c'est un peu une espèce de quitte ou double. Alors j'ai appris cet après-midi que le président de la République se proposait de nous refaire le coup du grand débat. Donc j'imagine qu'il va se mettre
Oui.
en bras de chemise,
Donc ça a été annoncé
debout.
cet après-midi, un grand débat avec les agriculteurs. Alors,
Voilà.
ça va être un grand débat avec la FNSEA, je pense, mais...
Pas forcément, pas forcément. Faut jamais préjuger de ce qui va se passer. Mais on sait très bien que le grand débat après les Gilets jaunes, ça n'a strictement rien donné. La preuve, c'est que les cahiers de doléances dorment je ne sais où et qu'on ne s'est même pas donné la peine de les numériser et qu'ils ne sont voilà, on les redécouvrira. Les historiens, dans 30 ans, 40 ans, iront explorer les cahiers de doléances et diront, ah ben oui, mais ah, on aurait pu. Bon,
Et
voilà.
Serge, la Convention citoyenne pour le climat.
Il y a la Convention citoyenne pour le climat, elle aussi, qui a fait les frais
Cimetière.
de ses promesses. Donc, c'est le cimetière des bateaux disparus, quoi, hein, voilà. Donc, il y a de fortes à parier que cette opération de communication qui s'annonce, où on verra donc un président allant au contact, haranguant les agriculteurs, etc., ne soit pas suivi des faits. Voilà. Ce pauvre Marc Fesneau, on attend toujours son projet de loi qui avait été remis sur l'agriculture, qui avait été mis un peu de côté, qui doit être enrichi, qui doit revenir rapidement, mais qu'y a-t-il dedans? Est-ce que c'est de nature à calmer les attentes ou à satisfaire les attentes des agriculteurs? C'est à voir, on n'en sait rien pour l'instant. Donc il y a une espèce de pédalage hein, de l'exécutif.
Et qu'est-ce qui va se passer au salon de la culture à ton avis? Parce qu'il y en a qui disent ça va mal se passer, il y en a qui disent en fait ça va, Attal il est gentil, Attal il est méchant. Est-ce que tu penses que ça va bien se passer?
Alors
Juste
moi, ce que je sais, c'est que
sur le thermomètre.
pendant une semaine, on va parler d'agriculture dans ce pays, et tant mieux. Et tant mieux. Ce que je vois dès aujourd'hui, c'est qu'il y a des barrages qui ont repris, et je pense que les gens vont pas se contenter de rester sur les barrages. Voilà. S'il y a un salon d'agriculture, ça va forcément être le salon des barrages. Ce sera un peu surprenant qu'il y ait le salon d'agriculture d'un côté, et que cette colère paysanne ne trouve pas à s'exprimer dans le cadre de ce salon. Voilà. Et puis si les routes sont barrées, moi il y a un signe quand même, l'occupation de l'usine Lactalis par des agriculteurs me semble un signal très inquiétant par rapport à ce qui s'est passé il y a un mois. C'est-à-dire qu'on a franchi un cap. On n'est plus en train de barrer des routes. On va directement chez les responsables. Lactalis qui paye le lait, même pas à prix coûtant.
Oui, grosse mobilisation hier. C'était la Confédération paysanne à Laval, au siège de Lactalis.
Voilà.
Mais d'ailleurs, Serge, pour changer un tout petit peu de sujet, mais rester dans le même concept, tu avais parlé lundi des prises d'otages. Les contrôleurs SNCF ont fait grève le week-end dernier. Les médias ont parlé de prises d'otages. Ils prennent en otage les Français.
C'est pas les médias, c'est les politiques.
Les politiques.
C'est les politiques. Moi, je veux dire. Quand nous avons Catherine Vautrin, mais non, non, pour une fois que les médias sont mal en truc. Pardon. Non, mais je veux dire, quand je vois cette brave dame Catherine Vautrin que je ne connaissais pas et que personne ne connaissait d'ailleurs, c'est quand même quand je pense qu'on a songé à elle pour être première ministre, je ne sais pas qui a pu avoir cette idée folle. Déjà, ministre semble un truc absolument dément, mais cette brave dame qui vient nous dire donc, on peut pas prendre les Français en otage à la troisième phrase sur la SNCF. Bon, et ensuite tout le monde y est allé des otages. Pardon, mais je trouve ça profondément odieux dans la situation que nous connaissons aujourd'hui au Proche-Orient de parler d'otages. Hein, faut quand même ramener les choses à leur juste proportion et leur juste hiérarchie. Et puis parce que si on commence à parler d'otages, c'est quoi alors les contrôleurs? C'est des terroristes? Non, mais la logique de ce discours totalement délirant, c'est d'aller dire que finalement les grévistes sont des terroristes. Hein, on nous a déjà fait le coup avec les écolo-terroristes, maintenant ça va être les grévo-terroristes.
Alors justement, Serge, concernant les blocages, à aucun moment les politiques ont parlé de prise d'otage des automobilistes. Tu vois, si tu avais un groupe de 10 écologistes qui faisaient une action sur le périph' ou l'autoroute A6...
Mais ils l'ont fait.
Non, mais ils l'ont fait. Et ils se prennent des coups, ils risquent la mort, ils peuvent se faire rouler dessus. Et c'est des prises d'otage des gens qui vont au boulot. Et là, ça a duré 10 jours et jamais on a entendu cette phrase. Pourquoi?
Ben, y a une réponse simple, la peur. Parce qu'on sait très bien que dans ce pays, il y a des catégories sociales qui ont les moyens de bloquer le pays rapidement. Les agriculteurs en sont une. Ils ont non seulement la capacité de bloquer le pays, mais de bloquer le ravitaillement du pays. Il y en a d'autres. Il y a les routiers, transporteurs routiers. Demain, ils s'arrêtent, le pays s'arrête. Il y a la SNCF. La SNCF peut paralyser le pays. Il y a des catégories, les aiguilleurs du ciel peuvent paralyser le trafic aérien. Donc, il y a des catégories sociales qui ont, de par leur métier, une capacité d'action, une capacité à se faire entendre, plus importante que d'autres. Voilà, salarié du privé dans une entreprise de 50 salariés, ils peuvent faire grève. Ils vont pas faire chanceler le pouvoir. Donc la difficulté, elle est là. Les agriculteurs, tout le monde sait que c'est un mouvement qui peut très vite monter en puissance et qui a surtout aussi les moyens de bloquer les voies de circulation avec finalement peu de gens.
Je veux dire qu'il suffit
de 20 agriculteurs qui décident d'aller bloquer une bretelle d'autoroute. S'il faut sortir les tracteurs, il va falloir aller chercher du matériel lourd, faire appel à l'armée. Avec tout ça, bien sûr, sous le regard des caméras, donc au troisième, quatrième tracteur qui sera dégagé soit par les nouveaux blindés de la gendarmerie, dont on a découvert d'ailleurs, petite parenthèse amusante, que ils ont été utilisés pour la première fois, ces nouveaux véhicules blindés sur le chantier de l'autoroute près de Castres. Ils sont tellement lourds qu'ils se sont enlisés dans la boue. Et donc, ils n'arrivaient plus à s'en sortir.
C'est français.
Non, c'est pas que c'est français, mais c'est que c'est une utilisation d'un matériel qui a une volonté dissuasive. Voilà, on sort les centaures, ça s'appelle un centaure. Hein. Donc, c'est une production française, bien sûr. Mais donc, on les sort, on se dit, les manifestants vont être impressionnés. Le problème, c'est que quand on les a fait rouler dans la boue, dans des conditions réelles, on s'est aperçu que les trucs sont tellement lourds que ils n'avançaient pas. Voilà. Et ils sont restés bloqués. C'est comme au moment de... Je fais encore une autre parenthèse, mais j'avais souri en lorsque un blindé, les anciens blindés de la gendarmerie, donc les VBC, c'est véhicule blindé de je ne sais plus quoi, de la gendarmerie, donc les vieux qui avaient été fabriqués en 70, étaient stationnés sur le rond-point des Champs-Élysées, enfin de l'Arc de Triomphe, et le poids des véhicules avait complètement pété les grilles qui bordent l'Arc de Triomphe, et les blindés étaient coincés, avaient cassé, les roues étaient encastrées autour de l'Arc de Triomphe. Voilà, bon, donc la démonstration de force n'avait pas réussi autant qu'espéré. Mais pour en revenir aux agriculteurs, oui, ils ont une capacité à bloquer le pays rapidement et bloquer le ravitaillement.
Et puis c'est la nourriture, c'est l'alimentation. Ah
oui, c'est ça.
C'est les rayons des supermarchés, voilà. C'est l'épicier. Voilà. En une semaine, ça se voit concrètement dans la vie.
Donc, bien sûr, on va pas dire qu'ils prennent les Français en otage, parce que là, tout le monde se dit, il faut pas déconner, faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Les contrôleurs, c'est pas un métier sympathique, hein. Un contrôleur, c'est le type qui vient, hein, qui dit, monsieur, vous avez votre billet, etc. Sauf qu'il faut des contrôleurs dans un train, parce que ils assurent, il y a toute une partie sécurité, du voyage qui est assuré aussi par les contrôleurs, sécurité, tout simplement respect des consignes, vie à bord, etc. Bon. Donc on dit contrôleur, et puis en plus il est de bon ton dans ce pays de montrer du doigt la SNCF régulièrement en disant ah là là la SNCF. Ça participe d'ailleurs de ce processus qui est une constante des gouvernements de droite et des gouvernements libéraux qui se sont succédés, c'est de casser le service public, de le délabrer. Et de dire ensuite, vous voyez, ça marche pas, ils font tout le temps grève, et en plus ça marche pas, franchement et tout, privatisons, voilà. Et on vit encore un épisode, un nouvel épisode de cette campagne de dénigrement de la SNCF qui par le passé marchait bien. J'en suis désolé.
Alors selon les experts sur le chat, ce serait le VBCI, le véhicule blindé. Et il y a un débat, c'est pas super clair. Attends, Serge, on te perd brièvement. Attends, oui. Une seconde, ça revient.
Ça revient, je t'ai perdu, moi.
C'est bon, tu es revenu, c'est bon.
Ben, j'ai revenu, voilà. Oui, non, le VBCI, c'est le nouveau véhicule qui est très bien. C'est le véhicule de combat, véhicule blindé de combat de l'infanterie. Mais c'est pas le... Je retrouverai, écoutez, Je mettrai ça sur un des fils de discussion si je retrouve le nom. Voilà.
Alors, on a eu peut-être une mini coupure. J'espère que tout va bien sur le chat. Dites-nous s'il y a des soucis, mais normalement, c'est bien reparti. Concernant les blocages, Serge, les JO, les Jeux Olympiques de Paris qui seront au mois d'août, comment ça va se passer? Est-ce que les menaces sur le droit de grève, donc la restriction du droit de grève, est-ce que c'est pour les JO? Comment tu le sens, toi?
Je sens qu'on va très nettement vers une tentative, je dis bien une tentative, de restreindre le droit de grève. Alors, le droit de grève, il est déjà très encadré, hein, sur les délais de prévenance, sur le fait de se déclarer gréviste, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas faire grève du jour au lendemain, il y a un préavis à respecter, il y a tout un processus, donc c'est déjà très encadré. Et l'idée du législateur, lorsque ces règles ont été mises en place, c'était de pouvoir permettre aux entreprises, le cas échéant, de s'organiser de manière à léser le moins possible les usagers. Je pense bien sûr au transport en commun, mais il y a des aides de service, l'électricité, etc. Et en même temps, il faut assurer aussi un service minimum dans certaines branches, par exemple l'électricité pour les hôpitaux, pour les services de secours, pour voilà, des choses comme ça. Donc, encadrer le droit de grève, ce n'est pas scandaleux en soi. Après, c'est le degré, tout est une question de curseur. Et donc, l'idée, c'est la dernière foucade gouvernementale, c'est de s'aligner sur ce qui se fait en Italie, je crois en Espagne. C'est donc cette idée des 60 jours qui permettrait, qui sera à disposition du gouvernement pour sanctuariser un certain nombre de périodes. Donc, le gouvernement pourrait dire, bah, écoutez, voilà, à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, on ne peut pas faire grève. Début juillet, on ne peut pas faire grève. On ne peut pas faire grève au moment des vacances scolaires de février, au moment des vacances de Noël, etc. Bon. Et donc, le gouvernement aurait un crédit. Alors après, on voit bien l'usage qui peut être fait. Je fais une réforme des retraites. Et puis je dis, tiens, bon, allez, ouais. Et ben pendant la discussion parlementaire, paf, vous ne pouvez pas faire grève.
Ça, bon, ça, c'est catastrophique, voilà. Ça.
Ah ben, c'est une possibilité. C'est une possibilité. À partir, il faut bien envisager le fait que lorsqu'on prend une mesure, lorsqu'une loi est votée, elle peut avoir des effets pervers. Et en l'occurrence, si le gouvernement peut utiliser son crédit de jour, où la grève est interdite, il peut l'utiliser dans des périodes de tension sociale ou de conflit social ouvert.
Et là, concrètement, Serge, tu penses que ça, c'est en préparation?
Je pense qu'ils sont en train de se faire des nœuds au cerveau pour arriver à faire que un tel projet de loi puisse être présenté, puisse être voté, et puisse être avalisé par le Conseil constitutionnel. Parce que le droit de grève est... C'est un droit constitutionnel. Donc, dans quelle mesure le Conseil constitutionnel pourrait dire, bah, écoutez les gars, faut pas exagérer, quand même là, ça équivaut à une suppression partielle du droit de grève. Voilà, tout est une question de curseur. Mais il y a une volonté, bien sûr, de cadrer ou de rendre plus difficile l'exercice du droit de grève, mais pour une raison simple, c'est parce que la récente mobilisation sociale sur les retraites, la grosse crainte de l'exécutif, souviens-toi, c'était la mise à l'arrêt du pays. Voilà, qui n'est pas venu, mais on a vécu quand même, il y a eu une ou deux semaines où la question d'une grève générale s'est posée. Elle s'est posée aux directions syndicales, elle s'est posée dans la fonction publique parce que c'est plus facile, c'est plus organisé, c'est plus structuré dans la fonction publique pour faire grève que dans les entreprises du privé, mais cette question s'est posée. Voilà. Bon, la grève générale, par définition, ça ne s'est jamais décrété. Il n'y a pas de leader syndical qui ait un bouton caché dans son bureau où il y a marqué « pouf, grève générale » et tout le monde s'arrête. Ça ne marche pas. La grève générale, c'est un mouvement. C'est-à-dire que finalement, c'est le constat dans l'état de fait. C'est-à-dire que la multiplication des grèves dans les entreprises fait qu'à un moment donné, on s'aperçoit que c'est la grève générale. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Dans l'histoire du mouvement ouvrier français, ça s'est toujours passé comme ça. Il n'y a jamais eu de décision d'un petit comité qui a dit « demain, on fait grève générale et tout s'arrête ». Voilà.
Mais si le droit de grève n'est pas touché pour les JO et que voilà, on peut faire grève de façon illimitée, toi, ton avis, pour les JO, ça va bloquer? Il se passera beaucoup de choses?
Alors, j'en sais rien. Je pense que moi, je vais faire… Moi, je vais faire, en tout cas, comme beaucoup de Parisiens et d'habitants d'Île-de-France, c'est que je vais surtout éviter d'être à Paris pendant cette période.
Pourquoi? Anne Hidalgo, je suis pas d'accord.
Oui, mais Anne Hidalgo…
Ce serait une connerie.
Rappelle-moi son score à la présidentielle.
2%, Serge, 2%.
Bon, soyons sérieux. On sait très bien que la capacité de transport à Paris, on ne pourra transporter les spectateurs vers les lieux des manifestations sportives, que si les gens qui utilisent normalement les transports en commun s'abstiennent de les utiliser. La réalité, elle est là. C'est qu'il y aura une insuffisance des transports en commun pour acheminer les gens sur le lieu des manifestations sportives. Donc, il va falloir se débrouiller pour que les gens qui prennent les transports en commun pour aller bosser ne les prennent pas. Donc, ça, c'est le premier cauchemar qui se profile, c'est une congestion de l'agglomération parisienne avec les transports. Et le deuxième élément qui fait peur, c'est que bien évidemment, un certain nombre de gens en profitent pour faire valoir leurs revendications au moment qu'ils jugent le plus opportun.
Alors, la RATP, par exemple.
Il va y avoir des tas de catégories sociales, même y compris des gens qu'on ne voit pas, les petites mains qui contribuent à faire fonctionner l'ensemble de cette manifestation. C'est le moment rêvé pour avancer des revendications, obtenir satisfaction. Hein, on peut faire grève tous les 29 février, mais ça tombe tous les 4 ans. Bon, donc c'est peut-être plus opportun, mais là, C'est une question, on peut dire, ah, c'est pas bien, on va avoir tout un discours culpabilisant qui va surgir en disant, vous vous rendez compte, ils font grève, la vitrine de la France gâchée, la fête gâchée, comment offrir ce spectacle alors que le monde entier nous... Voilà, c'est ça, on va nous dire, les grévistes prennent en otage les Jeux Olympiques, on va avoir droit à tout. Bon. Mais s'il y a des gens qui jugent que finalement leurs revendications ont plus de chances d'aboutir au moment des Jeux Olympiques, je pense qu'ils ont raison. C'est une question de rapport de force. La grève, c'est toujours un rapport de force. La négociation, moi j'aime beaucoup tous ces gens qui disent, j'écoutais ce responsable de la SNCF qui disait, la grève ne doit pas être un point d'entrée de la négociation. Bah si, parce que quand on va...
C'est la SNCF qui a dit ça aujourd'hui.
Oui. Quand on va négocier, qu'on n'a pas un rapport de force derrière en disant, écoutez, les salariés... pense que vous devriez quand même desserrer un peu les élastiques de la bourse. Si on arrive comme ça, on est représentant syndical, bien souvent, oui, c'est ça, oui. Puis on s'en reparle. Hein. Et c'est vrai que malheureusement, il y a une culture du rapport de force, mais cette culture du rapport de force, elle n'est pas du fait des organisations syndicales, elle est du fait du patronat, qui tant qu'il n'y a pas une pression qui s'exerce sur lui, il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas dans la culture des entreprises françaises. La négociation sociale, c'est comme ça. On peut le regretter. Moi, je ne suis pas un fanat de la grève à tout prix, parce que d'abord, les salariés perdent de l'argent, c'est clair. Mais dans ce pays, avoir des négociations sociales à froid, de manière raisonnable entre partenaires responsables, c'est quasiment impossible. Il faut toujours faire la démonstration, il faut rouler du muscle avant la négociation pour qu'il y ait négociation. Et on le vit encore avec les agriculteurs, hein. Pardon de revenir sur les agriculteurs, mais on leur a fait beaucoup de promesses à l'arrivée. La taxe sur le gazole qui est gelée, et puis pour le reste, ça tarde, voilà. Et ils remettent un petit coup de pression pour que les revendications avancent. C'est aussi simple que ça.
Donc, Laurent se demande si le gouvernement ne trouve pas un moyen d'éviter les manifs pendant les JO. C'est la confrontation assurée. Non.
Non, je ne sais pas. Hein. Franchement, je pense que ça pourrait être amusant, mais l'histoire des Jeux Olympiques, elle est quand même de toute manière, ils ont toujours été perturbés. Hein. 1968, les Jeux Olympiques à Mexico, des émeutes, des milliers de morts. Hein. Ça n'a pas empêché les Jeux Olympiques. Voilà. Donc l'histoire des Jeux Olympiques se fait toujours sur en toile de fond des conflits, des affrontements, des guerres, des boycotts, etc.
C'est vrai qu'il y aura les JO aussi pendant le conflit à Gaza hein, et en Ukraine.
Oui, mais enfin, on verra, les Russes pourront défiler en tenue neutre, et j'ai appris. Oui, donc les athlètes russes dans les disciplines individuelles pourront participer aux Jeux sous réserve qu'ils adoptent une tenue neutre. Ils ne pourront pas défiler avec le drapeau ou avec les cuissons de leur pays sur leurs survêtements.
D'accord, mais pour les Israéliens, j'imagine qu'il n'y aura rien de spécial.
Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit le souci immédiat des gens dans la région.
Pour revenir sur le Conseil constitutionnel, Serge, y a-t-il aussi une volonté de décrédibiliser et éventuellement de supprimer le Conseil constitutionnel ? On repense aux Républicains, après la loi immigration, le retoquage du Conseil constitutionnel de la loi immigration, a dit « il faut une réforme, le Conseil constitutionnel, c'est lui qui dirige le pays ». Est-ce que c'est dans les tuyaux de supprimer le Conseil constitutionnel ?
Alors, bon, c'est Laurent Wauquiez qui a dit ça. C'est Laurent Wauquiez qui a dit que l'Assemblée devait avoir le dernier mot. Si l'Assemblée veut avoir le dernier mot, c'est l'article 89, c'est la modification de la Constitution. Voilà, hein, ça existe. Si l'Assemblée veut avoir le dernier mot, elle change les institutions et elle peut le faire, l'article 89 de la Constitution. Bon, mais ce que disait Wauquiez, c'était en gros, le Conseil constitutionnel, ça peut être un avis consultatif et si ça nous plaît pas, on s'affranchit de l'avis du Conseil constitutionnel. Là où le bas blesse au sein du Conseil constitutionnel, c'est que c'est une instance politique et ce n'est pas une instance composée de magistrats. Ce n'est pas la Cour suprême des États-Unis. Quand bien même aux États-Unis, on désigne des magistrats en fonction de critères politiques, hein, on est bien d'accord. Mais nous avons au Conseil constitutionnel des gens dont la culture juridique est quand même assez limitée. Alors on nous dit, oui, mais derrière, il y a une armée de juristes qui s'occupent de préparer les décisions, de préparer le travail, et finalement le Conseil constitutionnel se prononce, avalise un travail qui a été fait en amont. Oui, mais je pense que le vrai problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'il n'est pas perçu, il n'est pas reconnu par les Français comme une espèce d'arbitre suprême qui est capable de dire à un moment donné, la loi, ce n'est pas conforme à la Constitution. Là, on a eu des décisions assez menaçantes, on a eu des décisions assez menaçantes sur les retraites, d'ailleurs que, la réforme des retraites est passée. Alors même, je fais remarquer quand même que le Conseil constitutionnel a accepté que la réforme des retraites passe avec un véhicule qui était un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, c'est-à-dire que c'était l'exemple même d'un cavalier législatif à lui tout seul, ce PLFSS,
C'est ça.
Non, les acronymes terrifiants. Donc, le Conseil constitutionnel dit « Ah ben ouais, d'accord, la réforme de retraite, ok, c'est bon, on fait un petit peu de toilettage et tout, mais pour l'essentiel, ça passe. » Et le projet de loi immigration en retoque une bonne moitié en disant « Ces articles sont des cavaliers législatifs. » Alors moi, je veux bien, mais il faut avoir une doctrine. Soit on retoque systématiquement tout ce qui est du ressort des cavaliers législatifs et ça valait pour la réforme des retraites, soit on dit il n'y a pas de cavalier législatif et on prend la réforme, le projet de loi immigration tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais on peut pas dire « Ah ben là, ouais, non, aujourd'hui on est dans notre période où on flingue tous les cavaliers législatifs et puis à côté de ça, accepter que l'utilisation d'un vecteur qui n'était pas un vecteur pouvant porter la réforme des retraites. Chacun le savait, c'est un détournement d'un véhicule législatif. On a quand même un Conseil constitutionnel qui a dit « Ah ben ouais, pourquoi pas, tiens, c'est une bonne idée. » Voilà. Donc c'est ça, c'est l'incohérence du Conseil constitutionnel. Le manque de légitimité de ses membres. Je suis désolé, enfin, il y a des gens qui… je ne donnerai pas de nom, mais enfin, il y en a certains, on se demande s'ils savent lire et écrire, quoi. Donc… franchement, on a quand même dans ce pays suffisamment de juristes bien formés pour, on n'est pas obligé d'aller chercher les derniers de la classe pour être au Conseil constitutionnel.
Une question de Chaillard, Serge. Est-ce que le gouvernement peut utiliser le même niveau de répression policière pendant que le monde entier est braqué sur les JO en France?
En voilà une question qu'elle est bonne, comme dirait Coluche. Oui, c'est compliqué si on commence à matraquer du manifestant allègrement comme la police française et la gendarmerie dans une moindre mesure savent le faire devant les caméras, moi je sais pas, du Japon, de Suède, des Américains, etc. C'est sûr qu'ils vont être contents de leur reportage, hein, les confrères. C'est vrai que ça pose un vrai problème. Et puis en plus, il y a la sécurité des installations, il y a le risque terroriste qu'il faut pas sous-estimer, qui est aussi une réalité. C'est-à-dire que nous allons avoir des forces de police mobilisées à 100%, dans fatigué, un état de fatigué, dans
il
un
fera
état
peut-être très chaud.
Il fera peut-être très chaud. Et s'il y a des manifestations et des conflits, effectivement, ça risque de virer. Mais j'y crois pas. Même personnellement, j'y crois pas. Je peux me planter. Hein, vous me ferez peut-être la remarque en septembre en nous disant, Serge, ta bonne mine, maintenant tu nous avais dit que tu n'y croyais pas, la preuve que bon. Mais pourquoi je n'y crois pas? Parce que tout simplement, d'abord ça correspond aux vacances, et tout simplement, il y a beaucoup de salariés qui vont préférer, plutôt que d'aller manifester dans Paris, prendre leurs vacances en famille, et s'éloigner de Paris autant que faire se peut. Donc ça c'est le premier élément. Deuxièmement, il va y avoir, même y compris pour la capacité à se faire entendre, c'est-à-dire que la puissance des jeux, le spectacle des jeux va écraser médiatiquement tout ce qui peut surgir à côté.
Un peu d'international, Serge, question de Bobinafil. Est-ce que c'est constitutionnel de signer un accord bilatéral de sécurité sans débat parlementaire. Donc, il fait allusion à l'accord entre l'Ukraine et la France, donc entre Zelensky et Macron, de ces derniers jours.
Ben, les accords sont toujours signés et sont ensuite ratifiés par l'Assemblée nationale ou le Parlement pour certains. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a la signature, ensuite c'est soumis à ratification. C'est pas l'Assemblée nationale qui se prononce en amont. C'est une fois que l'accord est signé, il y a le gouvernement dit bah, machin. Alors, en général, c'est simple formalité. Hein. C'est très rare qu'un accord, un traité soit repoussé.
Est-ce qu'on fait une petite conclusion? Il n'y a plus beaucoup de questions. Je pense qu'on a abordé tous les thèmes. Serge, peut-être que tu veux rajouter quelque chose ou tu as vu une question peut-être?
Non. J'avais prévu de vous parler de... Peut-être que ça fera réagir certains d'entre vous sur... sur ce que nous avons vu hier avec Manouchian. On voulait vous repasser l'extrait du discours d'Emmanuel Macron, qui, je dois le dire, était un discours qui était irréprochable à tout point de vue. Voilà. Mais ce discours entre en telle contradiction avec le projet de loi immigration et la loi immigration telle qu'elle a été votée, que ça me laisse, je dirais, dans un état de sidération. Je m'explique. Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit incohérent à ce point. Qu'on puisse, parce que ce qui s'est passé hier soir, c'est que à la figure de l'immigré voleur, violeur, assassin, etc., feignant, machin, qui vient manger les indemnités, les prestations sociales des Français, etc., etc. On a substitué une autre image, qui est celle de l'immigré qui prend les armes pour défendre la patrie, et qui est un Français de préférence, comme l'a fort bien dit Macron hier. Et je n'arrive pas à voir comment, dans l'imaginaire du président, ces deux images peuvent à un moment donné se superposer, voilà. Alors, c'est l'éternel en même temps d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que maintenant, à ce niveau-là, ça devient de l'incohérence totale ou de la schizophrénie totale. Je veux dire que c'est une question à laquelle je réfléchis là depuis quelques jours. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une explication, qui était la question des européennes. Et que, justement, à la veille des européennes, Emmanuel Macron a besoin quand même de dire à toute une partie de son électorat que Renaissance n'est pas devenue une espèce de truc complètement droitier, complètement réactionnaire, tel qu'il l'a dépeint lors de son intervention où il nous a parlé de réarmement idéologique, moral, social, industriel. Enfin, il fallait se réarmer, on préparait la guerre, c'était formidable. Bon. C'est cette ambivalence, ce basculement permanent, cette oscillation permanente qui m'a le plus choqué hier. C'est-à-dire que, en même temps, pardon d'utiliser l'expression, on a à cette cérémonie, on a la présence du Rassemblement national qui, pour le coup, est une présence totalement incongrue. Et on a un Emmanuel Macron, il y a autre chose, quand les commentateurs ne l'ont pas assez souligné, mais qui n'hésite pas à rappeler le rôle de la police de Vichy et de la préfecture de police. Ce qui, par les temps qui courent, où quand même la police est un des remparts du pouvoir, je dis, tiens, il a osé le faire. Il a osé le faire, ce qui n'était pas simple. Mais pour en revenir au fond du problème, je n'arrive pas à comment le même homme arrive à vanter avec un talent réel hier le parcours, il a retracé le parcours de Manouchian, lui a rendu hommage, et d'un point de vue républicain, l'hommage était irréprochable. Et en même temps, faire cette abomination qui est une régression totale, qui est la loi immigration. On se dit, c'est pas le même homme. Il y a un hologramme entre les deux. Il y a un clone. Et soit donc il est totalement inconséquent, et c'est le dernier qui a parlé, soit il y a un calcul politique. Je vois pas encore bien lequel c'est. Mais je me suis posé la même question au moment du déclenchement de la guerre à Gaza. Souvenez-vous, il part voir Netanyahou, il propose une coalition internationale. Donc tout le monde comprend, moi le premier, qu'il va y avoir des soldats français qui vont pénétrer dans Gaza, etc. et tout. Et deux jours après, il a rencontré le président égyptien et il a rencontré l'autorité palestinienne. Et là, il nous dit non, non, c'est une coalition humanitaire. Et puis d'ailleurs, on n'en a plus jamais entendu parler de cette histoire de coalition humanitaire. C'est fini. Et maintenant, aujourd'hui, c'est cessez-le-feu. Et maintenant, on en est à réclamer et à envisager la reconnaissance de l'État palestinien unilatéralement par la France. Donc, ce grand écart qu'on a vu au niveau international, on le retrouve à nouveau au niveau national. Et je me dis, ce type, il y a un truc, quoi. Pardon de vous le dire comme ça, mais mes capacités à décrypter le jeu politique, parfois, sont en échec devant le personnage qui arrive à soutenir des positions extrêmes d'un côté et à 15 jours de distance, à 15 jours de distance. On est à 15 jours de distance. Viens nous dire, Manouchian, c'est un exemple pour nous tous. Célébrant l'idéal communiste universaliste, quand même. Je me dis, mais comment il fait, quoi? Alors, soit c'est un gymnaste accompli en matière politique, soit c'est un type d'un cynisme consommé, soit il est totalement incohérent, soit c'est un schizophrène, soit il y a effectivement une tentative d'aller rechercher un peu des voix de gauche qui, à la faveur des européennes, pourrait lui manquer. Voilà, mais en tout cas, ça mérite d'être souligné parce que franchement, ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. On ne peut pas célébrer Manouchian et faire la loi sur l'immigration. C'est pas possible.
Serge, c'est un peu pareil que Marine Le Pen qui a été à l'hommage, à la panthéonisation de Manouchian, à la cérémonie, et puis elle honore les résistants, les déclarations qu'elle a faites sur la résistance.
J'ai pris un peu les pieds dans le tapis en nous parlant de la Légion étrangère, quoi.
Peut-être qu'elle est moins talentueuse que Macron pour ça.
Non, mais elle nous parle de la Légion étrangère où son père était, en disant, nous voyez, on aime bien les immigrés, la preuve, ceux qui étaient dans la Légion étrangère et qui torturaient les Algériens, oui, justement, ceux-là, on les aimait bien. Bon, au secours, quoi. À l'époque, en plus, les étrangers dont elle parle, il faut savoir quand même, c'est que, c'est une des pages pas très glorieuses de l'armée française, c'est qu'à la fin de la guerre, on a proposé à un certain nombre de soldats allemands et de SS allemands de soit continuer à croupir dans les camps, soit d'être dans la Légion étrangère en ayant l'assurance qu'ils ne seraient jamais autre chose que de simples soldats et d'aller mener la guerre en Indochine et puis ensuite en Algérie. Donc c'est pas une page glorieuse de la Légion étrangère. Voilà. Mais je reviens sur cette incohérence de Macron, c'est totalement c'est incohérent. Franchement, la ligne politique là-dedans, elle est incohérente.
Bon, dernière question pour clôturer cette foire aux questions, Serge. Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné?
Ben moi, je crois pas. Voilà, je crois pas qu'elle ait gagné. Pourquoi je dis ça? Ben parce que dans l'histoire de France, on a vu des retournements autrement plus impressionnants. 6 février 34, manifestation des Ligues, place de la Concorde. Plusieurs morts. L'extrême droite a le vent en poupe. Partout en Europe, l'extrême droite est en train de soit a pris le pouvoir, soit se prépare à le prendre. L'Allemagne depuis 33, l'Italie depuis les années 20, Franco prépare son coup d'État. Voilà. France, 1936, victoire du Front populaire. Deux ans ont séparé la menace fasciste devant l'Assemblée nationale de la victoire du Front populaire. C'est pour ça que je dis que c'est comme les matchs de boxe. Jusqu'au dernier round et au coup de cloche final, le match n'est jamais joué. Et les seules batailles qu'on perd, c'est celles qu'on ne mène pas. Voilà. Donc je pense que les Républicains, au sens citoyens attachés à la République, les Républicains n'ont pas dit leur dernier mot. Et je pense que, mais maintenant il faut comprendre que il y a une bataille culturelle à mener. Il faut récupérer cet espace. Il faut récupérer toute une série de concepts qui sont des concepts républicains. La patrie, la nation, même la sécurité. Hein, ce sont la force de l'extrême droite, c'est de s'être emparé de concepts républicains, de les avoir tripatouillés à sa sauce et de nous les resservir aujourd'hui. Mais pourquoi la patrie serait l'apanage de l'extrême droite? Pourquoi la nation serait l'apanage de l'extrême droite? Pourquoi la sécurité serait l'apanage de l'extrême droite? La nation, c'est Valmy. C'est la révolution de 89. C'est pas l'extrême droite dans l'histoire de France. Voilà.
Merci.
Ce sera le mot de conclusion.
Un petit mot sur Pure Politique pour terminer.
Eh ben écoutez, Pure Politique, on est en train d'essayer de mettre un petit peu en place tout ce dont on vous avait parlé. Là, nous sommes toujours dans nos histoires de recherche de local. C'est pas tant des difficultés pour trouver un local qui nous convienne et pour avoir les moyens d'entrer dans ce local. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai appris que le local sur lequel on avait énormément de vues, c'était bien avancé, j'avais rempli un tas de papiers, fait un beau dossier comme on fait, etc. On sait, ben le propriétaire des lieux a finalement fait savoir à l'agent immobilier que quand même des gens qui faisaient une chaîne YouTube, c'était pas sérieux, et que encore si on avait eu un vrai journal, peut-être qu'il aurait accepté de nous louer le local. Mais alors non, une chaîne YouTube, non, il n'aurait jamais à des gens qui font du YouTube, parce que c'est des saltimbanques. Voilà. Donc on en est là.
On est pas, hein. Une chaîne YouTube, ça fait des années qu'on fait ça, mais on est YouTuber, quoi.
Voilà, on est YouTuber avec tout ce que ça suppose derrière. C'est-à-dire pas des gens sérieux, pas des gens fiables. On va pas payer notre loyer. On doit se droguer, que sais-je. Enfin bon, voilà, on est dans une représentation du YouTuber moyen qui était heureusement, des locaux, il y en a, et on va finir par en trouver, voilà. Et puis, on remplit des tas de dossiers en ce moment aussi pour avoir des subventions diverses et variées, comme font les autres médias, d'ailleurs, hein, les autres médias du monde des médias indépendants, je pense au sens large, mais enfin, tout le monde va tirer les sonnettes et essayer de... Voilà, pourquoi bon, je ne vous cache pas, l'objectif, il est toujours le même, hein, c'est d'arriver à la fin de l'année, on veut être en mesure de vous présenter beaucoup plus de contenu que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est deux contenus. On veut, à la fin de l'année, être en mesure de vous proposer quatre contenus avec de nouveaux journalistes. Voilà. Et des journalistes qui sont à la fois dans le ton de la chaîne et qui sont bien différents de moi. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait des femmes, hein. À l'antenne, il y a un peu trop de testostérone dans cette chaîne. Voilà. Donc, j'aimerais bien que ce soit un peu plus représentatif
Serge,
de l'humanité.
Si des gens veulent nous aider, comment ils font?
Eh bien, DonorBox. Sur DonorBox, venez nous aider sur DonorBox, parce que franchement, on ne vit que grâce à vous et quelques maigres sous que nous octroie la pub sur YouTube. Voilà, mais il y a rien de superflu. On arrive à payer les salaires qui sont vraiment pas mirobolants. Je vous l'assure. Moi, je prends le SMIC et
toujours à mi-temps.
Maxime est à mi-temps, mais enfin, il y a un moment où il va falloir qu'il passe à plein temps. Et puis il y a Benjamin Danan, Léonie Outier, qui sont nos JRI réguliers qu'on paye au tarif auquel on paye de la JRI, et voilà. Donc, tout ça, à la fin du mois, ça fait c'est l'économie d'une boîte. Hein. Donc, voilà.
Concrètement, on cherche à monter une super équipe. 4 contenus par semaine, du décryptage, de l'éducation populaire. Si vous avez des idées, vous nous envoyez des messages, commentaires, des vidéos YouTube, on les lit tous. Si vous avez des suggestions, on se fait un plaisir de les lire. N'hésitez pas, ça se passe sur DonorBox, il y a 66% d'exonération d'impôts, hein, c'est ça Serge?
Tout à fait. Enfin, non, pas de... Tu récupères, plus exactement, tu récupères 66% de tes dons sur ton imposition. Voilà.
On s'arrête là, Serge, un petit mot.
Eh ben, on s'arrête, hein, puisque je vais préparer mes petites affaires pour les manifestations des agriculteurs.
Bon, bah, voilà. Merci à toutes et à tous. Vous étiez plus d'un millier à nous suivre. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve. Alors, ce week-end, on va essayer de faire un petit truc sur le salon d'agriculture, un petit short.
Bah écoute, oui, enfin, on va voir, on va faire un peu en fonction de l'actu, selon où ça se passe. Est-ce que ça va se passer sur les barrages ou est-ce que ça va se passer au salon? Voilà, on va essayer de faire quelque chose.
Alors, pas de Bourbon ce soir, hein, c'était tout l'intérêt de faire cette FAQ,
Voilà.
parce que les députés, en fait, sont en vacances. Il ne se passait rien à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et on se retrouve, bah, du coup, Pôle Express pour
Lundi.
lundi pour un Pôle Express.
Voilà.
Bah, salut Serge, merci à toutes et à tous.
Bonne soirée à tous et à très bientôt.
Portez-vous bien.